France Inter.
France Inter. Dorothée Barba.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. On fait le plein d'initiatives et de solutions tous les jours dans les carnets. Aujourd'hui, je donne la parole à une femme qui entend impliquer les hommes dans les combats féministes. Elle a créé le collectif Nous Sommes et propose des cercles de parole aux hommes qui ont envie de se bouger à leur échelle pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Mais d'abord, jetons un œil à la presse. Soyez les bienvenus.
Carnet de campagne, le journal des solutions.
On se plonge dans Village, magazine partenaire des carnets de campagne. Le nouveau numéro est en kiosque, celui de l'automne 2025. Bonjour Axel Puig.
Bonjour Dorothée.
Et bienvenue dans les carnets de campagne. Vous êtes en duplex depuis les studios de Ici Occitanie, que je remercie au passage. Axel, vous êtes journaliste chez Village. J'ai lu avec beaucoup d'intérêt l'article que vous co-signiez avec Emmanuel Meyer, reportage consacré aux initiatives pour lutter contre l'isolement des personnes âgées. Elles sont très variées, hein, ces initiatives, et ça donne de l'espoir, je dois dire, de s'intéresser à ceux et celles qui se mobilisent pour tendre la main à leurs aînés. L'isolement est très fort, en particulier à la campagne, Axel.
Oui, alors on sait qu'en 2030, un Français sur trois aura plus de 60 ans et que donc du coup, les conditions de vie des personnes âgées est un enjeu de taille, un enjeu national, mais les problématiques sont encore plus prégnantes en milieu rural où il y a en effet la question de l'accès aux soins, bien sûr, qui est très importante, la difficulté de consulter des spécialistes, de se rendre dans un hôpital. Mais à la campagne, il y a aussi l'isolement, l'éloignement des familles qui sont souvent parties vivre en ville ou dans d'autres régions. Il y a aussi la dépendance à la voiture individuelle ou encore l'accès au commerce et aux lieux de sociabilité qui dans des villages qui en sont parfois dépourvus. Tout ça rend le vieillissement parfois plus difficile à la campagne.
Dans ce reportage, vous vous intéressez notamment à une coloc pour personnes âgées en Charente. Comment fonctionne cette colocation ?
Oui, alors ça fait partie de ces solutions inventées par des citoyens qu'on est allé chercher un peu partout en France. Et donc à la coloc de Rivière en Charente, c'est Marie-Laure Antomarchi qui était toiletteuse pour chiens, qui avait déjà une colocation, qui avait un bien immobilier qu'elle louait à des étudiants pour une coloc de jeunes. Et elle s'est dit qu'elle allait faire la même chose pour des personnes âgées. Alors c'est une colocation qui est installée dans un ancien hôtel. Il y a 9 chambres, 3 studios, 12 résidences. Résidents qui ont tous pour point commun d'être veuves ou veufs. Et tout le monde vit dans cette colocation. Le mode de fonctionnement est relativement libre puisqu'il y a uniquement un impératif qui est celui du repas du midi qui doit être collectif. Pour le reste, le soir, chacun fait comme il veut, prend son plateau repas devant sa télé chez lui, ou peut sortir, etc. Dans cette colocation, il y a le fils de Marie-Laure, qui lui est en charge de l'accompagnement des résidents. Et alors il se charge notamment de prendre les rendez-vous médicaux, d'amener les résidents à la banque. Il organise aussi des visites et des animations. Donc toute cette coloc permet de rompre l'isolement. Et c'est vrai qu'on a rencontré des personnes touchantes, et notamment je pense à Guylaine et Pierre, qui sont deux résidents qui ont ensemble se sont rencontrés et ensemble ont réussi à surmonter la peine de la perte de leur conjoint.
Et Dorian, dont vous parliez à l'instant, hein, qui travaille dans cette coloc, dit qu'il adore son boulot parce que c'est comme s'il avait 12 grands-parents.
Oui, c'est ça. Oui. C'est un peu le géo. En même temps, il y a des liens très familiaux qui se créent parce que c'est un lieu de vie collectif qui n'est pas médicalisé. Donc, du coup, ce sont des personnes qui ont encore de l'autonomie, avec qui il peut partager des souvenirs, les enseignements de la vie et de très bons moments. Oui.
Vous citez dans cet article un sondage de 2023, 92% des Français souhaitent vieillir chez eux. C'est vraiment un épouvantail, hein, l'EHPAD, pour beaucoup de monde.
Oui, c'est vrai que c'est devenu un épouvantail, et puis c'est vrai l'État a mis le paquet, si on peut dire, sur le maintien à domicile, et que de plus en plus de dispositifs sont mis en place pour le favoriser. On peut citer par exemple l'allocation journalière du proche aidant, qui est destinée aux personnes qui cessent en partie leur activité ou totalement pour accompagner un proche. Il y a aussi des formations qui sont proposées par des associations, des tiers-lieux, des collectifs, des associations pour justement accompagner les aidants qui sont essentiels pour le maintien à domicile. On estime aujourd'hui qu'une personne sur cinq aujourd'hui est aidantée. Ces personnes sont vraiment essentielles pour que les personnes âgées puissent rester chez elles pour bien vieillir.
Quelle autre initiative a retenu votre attention dans ce reportage, Axel ?
Alors, c'est un café qui a été installé dans le parc de l'EHPAD, donc à Cadalin, un village du Tarn, qui est pas très loin d'Albi. Il n'y avait plus aucun café. Et l'EHPAD, un collectif d'habitants, se sont dit, on va rouvrir un café au village, mais au lieu de l'installer sur la place centrale du village, on va l'installer au cœur de l'EHPAD. L'idée, elle est née dans la tête de Sandra Palmouriès, qui est directrice de cet EHPAD, au moment du Covid, une période qui a été particulièrement cruelle pour les résidents, qui n'avaient plus de visites pendant les longues périodes du confinement, et elle a eu envie de reconnecter les résidents à l'extérieur et aux gens du village. Et c'est pour ça qu'ils ont créé ce café. Alors c'est dans un modulaire en bois qui est très très chouette. Et alors le jour où on y est allé, c'était un soir d'été. Il y avait des guirlandes colorées un peu partout et surtout des bandas. C'était une soirée bandas. Il y avait des odeurs de grillades, des enfants qui jouaient, des familles. C'était vraiment un grand moment de convivialité. Et c'est vraiment ce qui était étonnant, c'est que là où il y avait de l'activité dans le village, c'était vraiment dans l'EHPAD ce soir-là, et c'était assez touchant d'assister à ça.
Vieux et heureux, un dossier à lire donc dans le magazine Village de l'automne 2025. Merci beaucoup Axel Puig.
Merci Dorothée.
Et à bientôt sur Inter.
France Inter. Carnet de campagne.
N'ayons pas peur de la palissade, l'égalité entre les femmes et les hommes concerne les femmes et les hommes. Aussi, le féminisme est-il l'affaire de toutes et tous? Voici un collectif féministe qui s'adresse aux hommes afin de prévenir les violences sexistes et sexuelles. Il s'appelle Nous Sommes et il a été créé par Noëlla Buny-Dubois. Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue dans les carnets. Alors, tout a commencé par un compte Instagram baptisé « Nos alliés les hommes » que vous avez créé il y a 5 ans et qui a rencontré un très beau succès. Comment avez-vous opéré ce passage des réseaux sociaux à la vraie vie? Comment est née cette envie d'organiser un peu partout en France des cercles de parole, des rencontres et des clubs de lecture à destination des hommes?
J'ai créé Nos Alliés les Hommes en me disant que j'avais envie de m'adresser aux hommes pour impulser un changement aussi de leur côté. Et au bout de 1 an, à peu près, sur les réseaux sociaux, j'ai eu envie de me dire que peut-être qu'il y avait des hommes, des vrais hommes qui étaient derrière leur écran et qui auraient envie de se réunir pour se rencontrer et se parler. Et moi, en fait, je suis médiatrice culturelle de formation. Du coup, j'ai le goût un petit peu de mettre les gens en lien. Et j'habitais à Paris, j'ai décidé de me lancer. D'abord, j'ai créé ça toute seule. Donc, j'ai monté des cercles d'écoute seule, un petit peu dans mon coin. Et puis ensuite, j'ai créé le collectif pour que il puisse y avoir d'autres ateliers, d'autres cercles d'écoute et clubs de lecture dans d'autres villes.
On peut citer d'ailleurs quelques-unes des villes où Nous Sommes est implantée ?
Oui, bien sûr. Donc, on est à Nantes, on est à Paris, on est à Montpellier, à Marseille, à Toulouse. On est aussi à Bordeaux et puis on est à Bruxelles, à Lausanne. À Genève. Il y a Cray, donc il y en a encore plein d'autres, mais on est dans une quinzaine de villes à peu près.
Comment se déroulent concrètement ces cercles de parole ?
Alors, les cercles de parole, ils sont thématisés. Donc, quand les hommes, les participants s'inscrivent, ils savent qu'ils vont venir assister à un cercle qui traite d'une thématique donnée. Donc, par exemple, ça peut être la paternité, ça peut être la contraception, ça peut être la charge mentale, etc. Et du coup, on s'installe autour d'une table. Ça dépend. Hein. On a des espaces différents. Des fois, c'est dans des cafés. Des fois, c'est dans des plannings aussi. On est au planning familial à Marseille, par exemple. Et du coup, les médiatrices présentent un petit peu le collectif, expliquent un petit peu quels sont les objectifs. Et ensuite, on lance la thématique. Et là, c'est vraiment de la discussion assez ouverte. Il n'y a pas de temps donné pour chaque prise de parole. Chacun prend la parole quand il a envie et s'il a envie. Ça discute comme ça pendant à peu près 2 heures.
Les ateliers sont payants, mais vous proposez un tarif solidaire à 3 euros pour rester accessible à tout le monde. Est-ce qu'il est parfois difficile de trouver des gens pour participer ou est-ce qu'au contraire, vous constatez de la demande pour ces ateliers ?
Alors, pour revenir sur la tarification, elle a changé récemment. Ah, maintenant, pardon. Tout est à prix libre. D'accord. Non, pas de souci. Tout est à prix libre, donc vraiment, les participants mettent ce qu'ils veulent. Et ensuite, en fait, on n'a pas tellement de difficultés à remplir. Il y a même des villes pour lesquelles on n'a pas assez de place, il y a trop de demandes. Mais voilà, ça se remplit plutôt bien. Puis on est sur les réseaux sociaux. Et c'est vrai que comme moi, j'ai ce compte Instagram, Nos Alliés les Hommes, ça permet de faire une communication un peu large, quoi.
Dites-moi si je me trompe, mais j'ai tendance à penser que ceux qui participent à ces cercles de parole sont déjà largement sensibilisés au sujet féministe.
Alors, plus ou moins. Effectivement, je pense que quand même la majorité des hommes qui viennent participer au cercle d'écoute, ce sont des hommes qui se posent des questions, qui ont commencé un petit peu à lire des choses, voilà, qui se questionnent et qui ont envie d'aller participer. Bon, ils ont tous envie de participer. Hein. Ça se base sur le volontariat.
Personne n'a
jamais forcé personne. Ouais. Non, non. Mais c'est vrai qu'il y en a qui viennent un peu par curiosité et qui des fois ont pas du tout de bagage, féministe, qu'ont pas lu et qui viennent là parce que, soit ils ont été invités par un copain ou des fois par un fils. Ça m'est arrivé d'avoir un père qui vient avec son fils, et qui du coup est pas forcément. Acquis à la cause, on va dire, qui n'ont pas forcément de background, qui viennent un peu comme ça pour voir comment ça se passe.
Comment est-ce qu'on pourrait mesurer l'efficacité de vos actions? Sur quels critères considère-t-on que les mentalités évoluent au terme de ces ateliers?
Ça, c'est très, très compliqué, en fait, à savoir, parce qu'on a des hommes qui vont revenir, donc des participants qui vraiment vont venir régulièrement pendant un an, deux ans, et qui vont venir... peut-être pas tous les mois, mais parfois si, en fait, ils viennent souvent. Et donc, on peut les voir évoluer. Et en fait, tout ça, après, le reste de l'impact des cercles d'écoute, ça se passe vraiment dans le cercle intime. Donc, c'est eux, au niveau de leur manière de relationner aux autres, leur manière de se comporter avec leurs partenaires ou avec leur entourage globalement, ou même eux dans leur manière d'envisager. Par exemple, quand on fait un atelier sur la contraception, je sais qu'il y en a qui vont derrière acheter un anneau contraceptif, qui vont se renseigner, qui vont faire des démarches pour une vasectomie. Et ça, c'est très concret. Mais après, pour le reste, en fait, il faudrait interroger l'entourage de toutes les personnes qui participent au cercle, mais on peut pas faire ce travail.
L'ambition de vos ateliers est-elle aussi de déconstruire le fameux « not all men », cet argument qui consiste à dire que ce ne sont pas tous les hommes qui commettent des violences?
Alors oui, en fait, la question des violences, elle n'est pas centrale dans tous les cercles d'écoute. On organise des cercles d'écoute à destination des hommes qui ont commis des violences. Là, c'est un des enjeux, effectivement, c'est d'en parler et effectivement de se rendre compte que c'est quand même beaucoup d'hommes absolument lambda qui se réunissent pour dire moi j'ai commis des violences et d'en parler et de comprendre et de prévenir surtout les récidives. Mais oui, il y a un enjeu effectivement de se rendre compte que globalement en tant qu'homme puis comme en tant que personne blanche on fait partie d'un problème et que on a besoin de se réunir pour en parler et pour trouver des solutions quoi.
Et quels sont les besoins de votre collectif aujourd'hui?
Notre collectif se porte plutôt bien. Mais sinon là on cherche une équipe pour Rennes par exemple, donc s'il y a des gens qui sont motivés du côté de Rennes pour monter un cercle d'écoute, ça serait avec plaisir. Et puis on cherche toujours des bénévoles pour filer des coups de main, créer des nouveaux cercles dans des nouvelles villes.
Collectif, ouais. Nous sommes, c'est donc un peu partout en France. Merci beaucoup Noëlla Bugny-Dubois.
Merci à vous
et bonne journée, à bientôt.
Merci, bonne journée, à bientôt.